Bonjour, nous sommes les élèves de 4e du collège André Duchesse. Nous allons interviewer Givette et Gatien qui ont eu la chance d'aller au château d'Azel Rideau dans le cadre du projet Pierre Feuille Ciseaux. En quoi consistait le jeu de piste et où se déroulait-il?
Bonjour. Le jeu de piste consistait à trouver des réponses. Les réponses, il y avait des questions dans un livret qu'on nous avait distribué, on était par groupe, et donc du coup on devait trouver des réponses. Et les réponses étaient dans le livret, mais il fallait pas les regarder, c'était ça. Et il se déroulait dans le jardin du château.
Qu'avez-vous pensé du jeu de piste?
J'ai beaucoup aimé parce que j'en ai beaucoup appris sur les arbres. Avant, j'en connaissais pas beaucoup, mais j'en ai appris beaucoup.
Et toi, Lucien?
C'était vraiment intéressant de découvrir tous ces arbres qu'il y a dans ce château. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne connaissais pas beaucoup d'espèces d'arbres de la vie.
Quelles ont été vos impressions sur le jardin?
Mes impressions sur le jardin, j'ai trouvé déjà qu'il était très fleuri, très bien pensé.
Entretenu?
Oui, c'est ça.
Bien organisé.
Oui, c'est ça, c'est ça. Il y avait des arbres, des fleurs, des chemins où on passait. Il y a aussi une petite rivière qui passe, donc il y avait des ponts et il est vraiment beau.
Et toi, Givette?
J'ai bien aimé, surtout voir la rivière avec la nature et tout ça, j'ai bien aimé. Et c'est rare qu'on voit un château juste c'est rare qu'on voit une rivière juste à côté d'un château.
Avez-vous visité le château? Qu'en avez-vous pensé et quel endroit vous avez préféré?
Oui, j'ai visité le château. J'ai bien aimé, mais j'étais un peu déçue de l'intérieur du château. Et mon endroit préféré, c'était au 3e étage.
Pourquoi?
Parce qu'on avait une belle vue d'en bas, et c'est ce que j'ai aimé.
D'accord. Et toi, Gatien?
Moi, j'ai bien aimé le grand escalier qui monte vraiment jusque tout au sommet, on va dire, le château, tout en haut. Il était vraiment beau et on pouvait vraiment voir le château avec des fenêtres qui étaient à chaque étage de l'escalier.
En quoi consistait le projet des maquettes?
Alors les maquettes, c'était un projet. En fait, on devait se mettre dans la peau d'un architecte paysagiste. Et refaire un petit peu le jardin comme on le penserait dans quelques années. Et oui, c'était bien.
Et toi, Juliette?
C'est ce que Gatien vient de dire. C'est, en fait, on devait juste penser à ce que le jardin il allait ressembler dans le futur. Donc imaginer des trucs et tout ça.
D'accord. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet?
C'était une activité qui était très ludique et très, très instructive, on va dire, avec le jardin du château.
Pour finir, parlez-nous de votre maquette. Comment vous l'avez réalisée et avec quoi?
Pour la maquette, on a utilisé de l'herbe, mais sauf que c'était pas de la vraie. Et on a utilisé aussi de la laine pour faire des moutons. On a utilisé quelques branches d'arbres. Et après, on a utilisé quelques fleurs, quelques arbres. Mais c'était des faux aussi. Et notre maquette, on avait pensé à un endroit où il y aurait plusieurs herbes et des animaux dessus, avec quelques rivières à côté.
D'accord. Et du coup, Yassine, toi, t'en as pensé quoi?
Nous, notre maquette, elle était vraiment basée sur un sentier avec des fleurs autour, des arbres. Et du coup, on a pris des objets de la nature et des objets qui nous étaient proposés pour faire notre jardin. Un petit bout de jardin.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
De rien et merci à vous aussi.
Merci à vous, au revoir.
Bonjour à tous, nous sommes en direct du studio radio du collège André Duchesne de l'île Bouchard. Nous sommes des élèves de 4e ayant eu la chance d'être retenus pour le projet Pierre Feuille Ciseaux de l'Académie Orléans-Tours, un projet autour du patrimoine et de la nature. Aujourd'hui, nous accueillons Anthony Moreau, sylvothérapeute que nous avons rencontré au château de Saché lors d'une sortie scolaire le 11 mars dernier. On va essayer d'en savoir un peu plus sur ce métier peu connu. Je laisse donc la parole à Achille et Anthony.
Merci Noah, bonjour à tous, bonjour Anthony. Que pouvez-vous nous dire sur le métier de sylvothérapeute, un métier peu connu ? En quoi consiste-t-il ?
Bonjour les garçons, merci de m'accueillir aujourd'hui. Ça fait plaisir d'être dans votre collège avec vous tous. Le métier, alors on peut dire sylvothérapeute ou sylvopraticien. Moi je sais que j'aime bien le terme de praticien parce que ça englobe beaucoup plus au niveau de la potentialité de ce qu'on peut faire comme activité avec la sylvothérapie. Donc c'est un métier qui me permet d'accompagner les gens au milieu de la nature, auprès des arbres, pour que chacun se reconnecte à soi et puis reprenne conscience aussi du monde dans lequel il vit, et c'est-à-dire reprenne sa vraie place au milieu de la nature, parce que, comme vous le savez, nous en tant qu'humains, nous sommes aussi des êtres de la nature. Et souvent l'humain l'oublie. En vivant dans des villes, en vivant au 21e siècle, avec nos téléphones, avec les télés, avec toutes les technologies. Mais il est important de se recentrer là-dessus. Donc c'est ça mon métier principal, c'est d'accompagner et puis de semer des graines chez chaque être humain.
Pouvez-vous nous expliquer votre parcours professionnel ? Quelle formation avez-vous suivi, par exemple ?
Waouh ! Alors le parcours professionnel, en fait pourquoi je fais waouh ? Parce que je peux pas juste dire, je me suis formé il y a 3 ans dans ce métier. Je vais essayer d'aller vite, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'au départ, je suis quelqu'un qui a un lien très fort avec l'eau, donc le milieu aquatique. Et je suis maître nageur de profession. Donc je me suis formé il y a maintenant pas mal d'années, c'était en 98, dans le métier avec un brevet d'État, d'éducateur sportif des activités de la natation. Et ce qui m'a permis de créer des stages, par exemple, en aquaphobie, pour accompagner des gens qui avaient très peur de l'eau. Donc ça, l'accompagnement, ça m'a toujours suivi. Et aussi en lien avec la nature, toujours. Parce que ça pouvait être dans des milieux naturels, ça peut être dans un lac, ça pouvait être dans une piscine, bon, c'est un peu moins naturel, mais voilà, ou aussi dans une rivière, par exemple. Et puis, il y a 3 ans de ça, j'avais envie de sortir un petit peu de cet élément eau pour aller sur Terre. Voilà, sortir et puis me réancrer moi aussi. Ce qui fait que je cherchais un complément de formation, un complément d'activité professionnelle qui fasse sens, toujours dans l'accompagnement, mais qui me permette, moi, d'aller vers quelque chose plus en lien avec mes aspirations du moment. Et puis, à un moment, j'ai vu un reportage à la télé qui expliquait qu'effectivement, il existait un métier, la sylvothérapie. Là, tout de suite, je me suis arrêté de faire ce que j'étais en train de faire, justement. J'ai écouté attentivement et je me suis dit, mais c'est ça, quoi. C'est ça. Et ça a fait sens. Et donc, il y a 3 ans de cela maintenant, je me suis formé aussi dans ce domaine pour pouvoir accompagner les personnes, non plus que dans l'eau, mais aussi à l'extérieur et en milieu naturel. Donc, en fait, si vous voulez, de par ces activités-là, moi, ça me permet à la fois de faire prendre conscience, comme je vous ai dit tout à l'heure, de notre place en tant qu'humain ici, dans ce monde, mais aussi de passer certaines peurs aux gens. C'est-à-dire que lorsque j'organise des immersions nocturnes, donc en pleine nuit dans la forêt, vous imaginez bien ce que ça peut faire ressentir de prime abord à chaque personne avant de s'être plongé dans cette aventure. Et puis, au fur et à mesure du temps, effectivement, ça évolue et les personnes prennent conscience que tout est OK, quoi, finalement. Tout est OK.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier et quelle idée ou rencontre vous a donné l'envie d'exercer ce métier peu commun ?
Ok, alors donc j'ai déjà un petit peu répondu à la question, mais c'est pas grave parce que je peux compléter. Depuis tout petit, en fait, je suis passionné par la nature, par l'observation animale. Je sais que quand j'étais plus jeune, je voulais faire je recherche le terme exact de ce métier. C'était éthologue, voilà. C'est l'étude des insectes aussi, l'entomologie, l'étude des insectes, et éthologue, l'étude du comportement animal. Et donc tout ça, en fait, ça me permettait de voir les fourmis, d'observer des papillons, des abeilles. Ma fille se moquait de moi, par exemple, quand j'étais maître-nageur, parce que je sauvais les abeilles qui étaient dans l'eau. Donc voilà, c'était une déformation professionnelle. Et donc ce qui fait que, en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, je peux allier ce plaisir de la nature et puis le transmettre aussi aux autres en m'immergeant carrément dans les forêts. Donc allons-y, quoi. Et puis ça a été des rencontres de passionnés aussi qui m'ont permis de me dire, je suis sur la bonne voie, quoi. Et ça me plaît.
En quoi consiste une séance de sylvothérapie Faites-vous vraiment des câlins aux arbres? Et si oui, combien?
Vaste question, hein. Les fameux câlins aux arbres. En fait, c'est souvent l'image qu'on a de ce métier et de cette activité. Vous faites des câlins aux arbres. Non, pas forcément. Et puis, qui dit câlin aux arbres dit qu'il y a derrière cela une intention particulière. Alors, je vais d'abord parler de ça, avant de parler d'une séance à proprement parler, si vous êtes d'accord. Donc, en fait, lorsqu'on s'approche d'un arbre, vous l'avez vu, chaque arbre, parce que lorsqu'on a fait la sortie ensemble, c'était dans un parc, mais il y avait ces arbres. Et donc, vous avez vu que chaque arbre est différent. Il n'y a pas un arbre qui se ressemble. Et chaque arbre peut renvoyer à soi une image, une sensation, une émotion. Donc la première chose, c'est quand on va s'approcher d'un arbre, c'est qu'est-ce qu'on ressent? Ah bah ouais, j'ai l'impression que je le connais depuis longtemps, ou j'ai l'impression que lui, ah bah non, je l'aime pas trop, je sais pas pourquoi. Peu importe de savoir ou pas savoir pourquoi, on s'en fiche. Ce qu'il y a d'important, c'est qu'est-ce qu'on ressent avec le cœur, avec le ventre, avec notre intériorité, d'accord? Et donc il y a ce premier point pour ce qui est de s'approcher d'un arbre. Des fois, juste enlacer un arbre, mettre ses bras autour, ça peut faire du bien, quoi. Ça peut faire du bien, juste ça réconforte, ça apaise. Donc ça, c'est sur le plan émotionnel, sur le plan inconscient, on va dire. Après, sur le plan physico-chimique, c'est-à-dire que l'arbre dégage des huiles essentielles, entre autres, ce qu'on appelle des terpènes, d'accord, comme le pin maritime, par exemple, qui va dégager la térébenthine. Et en fait, c'est une huile essentielle qui va booster l'immunité naturelle du corps humain. Ce qui veut dire que si moi je m'approche d'un arbre, que je viens poser mon nez contre l'écorce, donc forcément je suis hyper proche, d'accord ? Qu'est-ce qui va se passer ? Bien, en inhalant, je vais venir déclencher chez moi des hormones et un système physiologique qui va faire que mon corps va s'activer dans le bon sens. Et ça, c'est hyper important. Mais c'est vrai que quelqu'un qui va regarder de l'extérieur, qui va me voir le nez collé contre un arbre, il va se dire « qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui ? C'est trop bizarre ». Ben non, pas du tout. Et puis, il y a aussi, au niveau des arbres et des sensations, eh bien, il y a aussi les cinq sens qu'on va mettre en action. Le toucher, l'odeur, la vue. Et on pourrait encore donner d'autres exemples de l'importance de s'approcher d'un arbre. Mais des fois, il suffit juste de regarder un arbre, même à distance, hein, pour qu'il se passe quelque chose avec lui, hein. Vous savez, quand vous êtes en relation, vous-même, en tant qu'être humain, les uns avec les autres, ou même avec un animal non humain, il n'y a pas besoin d'aller forcément le caresser ou le toucher pour que il y a une relation forte qui se crée. Et ben là, c'est un peu la même chose. Et maintenant, pour répondre à la question de comment se passe une séance, et bien chaque séance est différente. Mais en fait, il y a toujours un début, un milieu et une fin. Il y a la présentation de départ pour rassurer les personnes qui viennent, pour que chacun se présente, bien évidemment. Par contre, je vous le dis, je vais pas vous donner tous les trucs toutes les activités, parce que c'est pas que je veux pas le faire. C'est que si jamais, en écoutant cette émission, certaines ou certains se disent « Ah ben moi j'ai envie d'aller y participer », il faudrait pas qu'ils reviennent dans le mental et qu'ils disent « Ah ben oui, alors donc on va faire telle activité ou telle activité, ah ben non, ça j'ai pas envie de le faire ». Non, non, il faut qu'il y ait la surprise, d'accord ? Donc je vais vous donner quelques activités type, mais pas plus. Donc il y a cette arrivée où on va tous se présenter, et puis après, tranquillement, on va déambuler dans la forêt. D'abord en explorant les cinq sens, donc la vue, le toucher, l'odeur, des fois le goût aussi. Ça dépend, faut pas manger tout et n'importe quoi non plus, hein, dans la forêt. J'ai pas le droit de perdre des gens. Donc voilà. Et puis, ça va descendre comme ça en douceur. La personne va descendre en intériorité, en introspection. Et plus on va avancer dans la séance, et plus la personne va aller vers un bien-être intérieur. Alors, il peut y avoir, par exemple, l'écoute. C'est-à-dire qu'à un moment, je peux leur demander de s'asseoir, et puis pendant 15 minutes, 20 minutes, écouter tous les bruits alentours. Sur 360 degrés, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'entends? Les oiseaux, le vent. Et là, il y a un silence qui se fait, et finalement, on se rend compte que c'est pas si silencieux que ça, mais ça fait du bien. Et les personnes prennent conscience de leur place dans cet environnement-là. Et waouh! Après 15 minutes d'écoute comme ça, échange. Il y a une évolution qui se fait en elles. Et puis, un autre exemple, ça peut être la marche pieds nus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais demander, et vous l'avez tous vécu, hein. Ça vous a plu d'ailleurs? Ouais.
Ouais.
Moi, j'étais pas là. Donc,
t'étais pas là. Il faudra que t'essaies, hein, d'accord. T'enlèves tes chaussures, tu vas dans l'herbe et tu marches pieds nus dès que tu peux. En fait, c'est déstabilisant parce que, en tant qu'être humain vivant dans nos sociétés, on est toujours avec des chaussures. On est toujours. Et puis, si jamais on enlève nos chaussures, bah c'est pas bien. Bah non, ça veut dire qu'on n'est pas poli ou autre. Là, on a la chance de pouvoir exploiter et expériencer, je sais pas si ça se dit, mais moi j'aime bien, tenter l'expérience de la marche pieds nus, par exemple. Et ça, ça va faire un bien fou au corps. Ça va rééquilibrer au niveau électrique le corps humain. Donc voilà. Et tout cet ensemble d'activités les unes après les autres, ce processus, va faire que les personnes vont se sentir de mieux en mieux. Et tu vois, ça fait déjà de l'effet sur toi. Donc, effectivement, c'est ça. Et puis, un dernier exemple, ça peut être aussi se rapprocher d'un arbre. Et puis, qu'est-ce qui va s'y passer? Et puis, je vais leur demander de rester peut-être un certain temps, une demi-heure, des fois ça arrive, une demi-heure près d'un arbre où ils vont pouvoir... Chaque personne va pouvoir s'allonger ou se mettre assise. Et ça va être son moment à elle. Et ce que les personnes n'osent jamais faire à l'extérieur en se disant « Bah ouais, mais là, si on me regarde, laisse tomber, quoi. La honte. » Ben non, pas du tout. Parce que là, c'est juste ce qui se passe. Et vraiment, ça fait un bien fou.
Utilisez-vous, pendant vos séances, les exercices que nous avons pratiqués avec vous lors de notre sortie du 11 mars au château de Saché.
Alors, est-ce que tu veux bien m'en rappeler une ou deux, si tu t'en rappelles?
On avait marché avec les yeux, avec les yeux bandés. Mmh. On avait marché pieds nus, on avait fait un parcours sensoriel et on avait dormi dans l'herbe, on s'était allongé dans l'herbe.
C'était bon ce moment, hein. Ouais, il était agréable, hein, dans les hautes herbes là. Alors, comme chaque séance est différente, c'est-à-dire que même si vous venez, même si on refaisait une séance ensemble, et si tu venais la découvrir, ce serait pas du tout la même chose, parce que ça dépend de la météo, ça dépend de l'humeur, ça va dépendre du groupe, de plein de choses, d'accord? Donc oui, effectivement, certaines des activités que je vous ai proposées ce jour-là, je les refais, et je les fais aussi en forêt, ou ça peut être dans un parc. À partir du moment où il y a de la nature, à partir du moment où il y a quelques arbres, c'est possible. Mais j'adapte toujours les activités en fonction des objectifs à atteindre. Parce qu'il ne faut pas croire que je vous ai fait faire ce jour-là des activités comme ça, au hasard, en disant « bon allez, je vais poser trois activités, ils vont être contents ». Non, pas du tout. Il y avait un objectif avec vous, c'était de vous reconnecter et d'oser dépasser certaines de vos propres croyances. Donc c'est pour ça qu'effectivement, je vous ai proposé ces activités-là.
Quel type de personnes ou de patients ont recours à vos séances de sylvothérapie, à vos soins?
Oh, c'est très vaste, c'est très vaste. Tout dépend du thème proposé, par exemple. J'ai différentes thématiques. Alors, j'organise et je l'avais pas dit tout à l'heure, et là, ça va répondre aussi. Une séance peut durer 2h30 à 3h. Ça peut être encore plus long, mais en général, c'est 2h30 à 3h. Donc, lorsque je propose une thématique, eh bien, forcément, les personnes qui vont regarder avant de venir vont se dire, ah, ça me parle. Ça peut être, par exemple, justement, reconnectez-vous à vos 5 sens. D'accord? Bon, bah là, les 5 sens, les personnes très tactiles, par exemple, ou très dans le sensitif, vont être interpellées. Ça peut être connectez-vous à l'énergie des arbres. Donc là, l'énergie des arbres, il faut déjà comprendre de quoi je parle. L'énergie. Oh non, mais l'énergie, moi, c'est pas un truc, c'est quoi ce machin, c'est trop bizarre. Ok, c'est juste. Donc, ça va dépendre des personnes. Après, ça peut être des personnes qui ont envie de faire un cadeau précieux à d'autres, en disant, bah voilà, tiens, je t'invite avec moi et tu vas venir découvrir une activité atypique qui va nous faire du bien. Et donc, ces personnes-là une complicité vraiment à ce moment-là. Donc, il n'y a pas forcément... En fait, c'est pas parce qu'on dit sylvothérapie qu'il y a forcément une problématique à régler derrière. Sylvothérapie, pourquoi? Parce que c'est la thérapie par la nature, par les arbres, par ce qu'ils nous apportent. Il y a le vert des arbres, le vert des feuilles. Donc, on fait de la chromothérapie, ça va apaiser. Il y a toutes ces huiles essentielles qui vont permettre aussi de calmer, de faire diminuer le stress. Vous voyez, en fait, il se passe plein de choses. Et puis après, il peut y avoir effectivement des personnes qui ont des problématiques très particulières, qui sortent d'un burn-out. Vous connaissez?
Oui.
C'est après la grosse période de stress. Boum, ça y est, c'est plus possible. Elles explosent en vol, je vais dire ça comme ça. Et puis, elles ont besoin de prendre soin d'elles. Et ben moi, je vais les accompagner en douceur. Voilà. Pour que, justement, elles puissent remettre un pied devant l'autre et revenir sur le chemin du bien-être, de leur bien-être et au sein de notre société. Un autre exemple, des personnes qui sont phobiques. Bah oui. Phobiques, par exemple, qui ont très très peur du noir, très très peur de la forêt, parce qu'il y a des gens qui ont peur de la forêt. Ok? Eh bien, allons-y, je vais les emmener. Donc, ça dépend. Et puis, il y a des élèves comme vous de quatrième, qui êtes encore dans une autre attente. Donc, à chaque fois, c'est adapté. Mais les résultats sont toujours à peu près les mêmes, c'est que, en général, et je sais pas ce que ça vous a fait pour vous dans votre classe, vraiment, mais il y a toujours cette reconnexion à un moment donné de se dire bah ouais, je me sentais bien après. Et comme tu l'as pas fait, c'est Noah, c'est ça?
Oui.
Noah, ben je peux pas en parler, mais Achille par exemple, toi, peut-être que tu as ressenti ce plaisir après cet apaisement dans la journée, non?
Oui, oui.
Ouais.
En effet, oui.
Et ça, est-ce que ça s'est poursuivi un peu après?
Ouais.
Ouais. Vraiment, hein, tu l'as ressenti, hein?
Oui, je l'ai ressenti,
faut
oui.
Faut pas me dire oui pour me faire plaisir. Hein.
Moi, je dis pas oui pour faire plaisir.
Ok, cool. Bon, voilà. Voilà ce que ça amène, la sylvothérapie.
Est-ce qu'une séance de sylvothérapie est prise en charge par la Sécurité sociale?
Malheureusement, non. Malheureusement, non. Et c'est bien dommage, bien évidemment. Mais ça évolue, hein. Je désespère pas. Effectivement, déjà, tout ce qui est médecine douce, il y a beaucoup de mutuelles qui prennent en charge une petite partie, c'est-à-dire quelques séances dans l'année. Mais c'est, ça me paraît essentiel. Il y a des pays, comme au Japon, où c'est préconisé par les médecins. Mais il y a beaucoup plus... Enfin, on appelle ça le Shirin-Yoku, là-bas. Et c'est vrai que c'est une institution. Ils le font de manière ancestrale. Chez nous aussi, hein, quelque part, on le fait. Mais c'était pas conscientisé comme maintenant. Et donc, j'espère qu'un jour prochain, ce sera remboursé, parce que ça, ouais, c'est un très très bon complément de toutes les autres médecines dites traditionnelles qui existent. Et aujourd'hui, on peut pas passer à côté de se reconnecter à la nature, quoi.
Aimez-vous votre métier? Qu'aimez-vous dans votre métier? Est-ce que c'est une passion?
Ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment, alors je suis à mon compte, hein, ça fait 16 ans que j'ai créé mon entreprise. À partir du moment où j'exerce un métier, et c'est pour ça que j'exerce comme ça, c'est parce que ça me plaît. C'est parce que pour moi, j'adore transmettre. J'adore partager, échanger et dire, bah, allez, je vous emmène dans mon univers, quelque part, et puis vous allez prendre ce que vous avez envie de prendre. Donc oui, forcément, pour moi, c'est essentiel et c'est même vital. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis en dissonance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je ne prends plus de plaisir dans un métier où c'est plus cohérent, j'arrête. L'avantage de ce métier-là, c'est que je peux tout inventer. Par exemple, même en sylvothérapie, je peux inventer du jour au lendemain une nouvelle activité, un nouveau concept, un nouvel événement. Ça me prendra du temps, de l'énergie, mais oui. Donc oui, là, la passion, elle est là, bien évidemment. Par contre, je suis pas forcément au départ complètement passionné par les arbres. Ça, je n'ai pas vécu depuis tout petit en me disant « Waouh, les arbres, c'est génial !» Par contre, je connais leurs vertus, je connais mon lien, une fois de plus, et j'insiste là-dessus, mais à l'environnement, à la nature de façon générale, ce qui fait que, bah ouais, ils sont là. Et puis, au fur et à mesure, moi aussi, je les découvre. Je découvre d'autres facettes qui font que, indéniablement, bah oui, ils font partie de ma vie aujourd'hui. Et j'ai envie de transmettre ça aussi.
Parvenez-vous à vivre de votre travail, de votre passion?
J'aimerais bien. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, dans ce domaine, en tout cas. C'est pour ça que j'ai une double activité. Une activité à côté qui est ma première activité, donc de maître nageur, où j'organise des événementiels en piscine. C'est-à-dire que, alors, vous allez voir, ça n'a rien à voir, hein, de prime abord. C'est-à-dire que j'ai des grands parcours gonflables, des aquatiques, d'accord? J'ai la sono, le micro, et puis j'anime. Je fais la fête avec le public dans des piscines. Et ça, j'ai commencé quand j'avais 30 ans. Donc, je me déplace un peu partout en France, dans toutes les piscines municipales, pour faire la fête sur une journée, deux jours, et je reviens après. Donc ça, c'était bien. Mais aujourd'hui, j'en ai 46, j'ai pas les mêmes énergies, les mêmes envies. J'ai évolué, moi aussi, et puis on évolue tous. Hein. Vous allez voir, vous aussi, dans un an, vous serez plus du tout les mêmes. Et même ce soir, d'ailleurs, vous aurez déjà changé. Et donc, en fait, j'essaie, au fur et à mesure, de diminuer cette activité d'animation aquatique, d'accord, pour aller vers celle qui fait sens aujourd'hui pour moi, qui est la plus riche intérieurement. Et donc cette activité en lien avec la nature, avec la sylvothérapie. Et c'est vrai qu'effectivement, là, il y a un autre public que j'aimerais aussi aller chercher, on va dire, et convertir, si je peux le dire ainsi, c'est le monde, le milieu professionnel. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on se rend compte souvent que dans des équipes qui travaillent ensemble, il y a des distensions, enfin il y a des ouais des distensions, il y a des incompréhensions ou des fois il y a du stress. Bah c'est de dire ok, eh bien l'équipe, allez, on va aller tous ensemble comme vous avec votre classe pour se reconnecter et puis et ça on va essayer d'arranger les choses comme on peut quoi. Mais moi si vous voulez je suis en fait de par mon métier je suis juste un passeur quoi. C'est-à-dire que je guide, mais quelque part, c'est pas moi qui fais le boulot, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que c'est bien parce que vous, quand vous venez avec moi, vous posez votre cerveau C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous laissez porter. Et ça, c'est super important, parce que ça vous évite de trop réfléchir. Vous êtes là, vous dites, ok, je suis le mouvement. Et ça vous permet vraiment d'être justement dans ces émotions et plus dans le mental. Et par contre, à un moment donné, c'est votre lien avec les arbres, par exemple, qui va faire qu'il va y avoir une magie qui va s'opérer. Et moi, mon rôle, c'est de dire, ah ok, là je sens qu'il se passe ça pour telle personne, pour tel groupe. Donc, ok, l'activité la plus juste à ce moment-là, c'est de proposer celle-ci, ou c'est de dire ce mot-là. Mais voilà. Mais après, c'est une complicité entre vous et votre environnement, quoi.
Pour finir, quel endroit nous conseillez-vous pour nous relaxer?
Eh bien, je vais vous poser la question à tous les deux. C'est quoi l'endroit que vous préférez pour vous poser? Achille, par exemple.
Toi, moi, c'est juste, je grimpe dans un arbre et puis voilà.
Toi, c'est ça? Grimper dans un arbre?
Okay. Au milieu d'une forêt.
Ok. Pour de vrai?
Oui.
D'accord.
Moi, je ne sais pas du tout.
Toi, si jamais tu as envie de te déstresser à un moment donné, tu vois, tu n'es pas bien. Et puis tu dis, pas dans ta chambre, on ne triche pas. D'accord? Quoique ça peut être un super endroit pour justement, c'est votre environnement à vous, mais un autre endroit dans la nature. Ça peut être ton jardin, ça peut être si tu en as un, si tu n'en as pas, ça peut être ailleurs. Qu'est-ce qui te vient comme ça? Si jamais tu as envie de t'isoler pour te retrouver avec toi-même, tu irais où?
Moi, j'irais sûrement dans mon jardin.
Ouais? Il y a un endroit que tu préfères dans ton jardin?
Bah, vers le fond.
Ouais, qu'est-ce qu'il y a là-bas, au fond?
Bah, rien de spécial, mais c'est plus éloigné, c'est okay. Plus tranquille.
Ok. Il y a des émotions qui montent hein, quand on en parle, hein. T'as vu? Tu te rends compte de ça. Achille, toi, c'est pourquoi cet arbre? Tu en as un en particulier dans la tête?
Pas vraiment, mais c'est juste, je sais que j'aime bien grimper dans les arbres, et que quand t'es dans les arbres, bah, y a personne qui vient te déranger, vu que t'es en hauteur, et du coup, voilà.
Voilà, ok. Vous voyez, c'est des endroits où vous vous isolez, vous êtes avec vous-même. Bah, j'ai envie de vous dire, peu importe. C'est l'endroit qui fait sens pour vous. Et c'est vrai qu'en pleine nature, vous trouverez toujours. Il n'y a pas besoin de s'éloigner à 400, 500, 600, 800 mètres pour trouver un endroit. Il suffit de trouver la place qui vous parle et qui vient vous chercher à l'intérieur. Et ça, c'est le meilleur endroit au monde pour vous reconnecter à vous-même. Et donc, voilà.
Merci beaucoup à vous, Anthony Moreau, sylvothérapeute, d'avoir pris le temps de vous être déplacé jusqu'à notre studio pour répondre à nos questions.
Merci beaucoup. Ouais, je redis juste un petit mot. Je voulais tous vous remercier, toutes et tous, à tous les élèves qui écoutent aussi, parce que c'est vrai que c'est important, tous les accompagnants, les professeurs aussi qui ont été présents. C'était une chouette expérience pour moi aussi, et j'en sors nourri, grandi. Donc, merci. Merci, ça a été un plaisir.
Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Nous sommes les élèves de 4e A qui participeront au projet Pierre Feuille Ciseaux de l'Académie Orléans-Tours.
Bonjour, aujourd'hui nous sommes en compagnie d'Isabelle Lamy, responsable du musée Balzac, situé dans un château à Bassaché.
Bonjour.
En effet, dans le cadre d'un projet intitulé Château Grandeur Nature, notre classe de 4e A du collège André Duchesne de Lille-Bouchard a eu l'opportunité de passer une journée complète au musée Balzac. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous poser quelques questions sur votre parcours, votre métier, le musée Balzac et enfin Balzac lui-même.
Quelles études avez-vous faites ?
Alors, moi, j'ai fait des études d'histoire de l'art, donc rien à voir avec la littérature à première vue, sauf que finalement, la littérature, l'histoire de l'art, ce sont des sciences humaines, tout cela est très lié. Et au départ, donc, j'ai fait un DEA d'histoire de l'art à l'époque, c'est aujourd'hui un master 2 en histoire de l'art.
Comment êtes-vous arrivée à ce poste de responsable du musée Balzac? Que faisiez-vous avant de travailler dans ce musée?
Alors, j'ai travaillé auparavant à l'université d'Angers. Je m'occupais de transmission de recherche en sciences humaines, justement. Et j'ai participé à la création d'un musée virtuel sur l'histoire des femmes et du genre. Et ensuite, j'ai souhaité intégrer un musée bien réel. Et il y a eu cette opportunité de postuler au musée Balzac en Touraine, où on cherchait quelqu'un qui puisse gérer les collections du musée, qui est donc un parcours d'histoire de l'art finalement, mais qui soit aussi capable d'organiser toute une programmation culturelle sur place, une offre aussi de visite pour les scolaires, pour les familles, pour les individuels.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Ah, j'ai choisi ce métier pour me faire plaisir. J'ai toujours fait des études en choisissant des voies qui me plaisaient. Je me souviens que au collège, au lycée, il y avait des matières qui ne me plaisaient pas du tout. Et je travaillais particulièrement en histoire, en lettres, en mathématiques. C'était un peu plus difficile, disons, de se concentrer parce que ça me passionnait pas réellement, même si je trouvais quand même que les mathématiques étaient assez ludiques. Alors, il y avait une matière qui me plaisait pas du tout, c'était la physique-chimie. Ça, j'avais beaucoup de mal et effectivement, au baccalauréat, ça s'est ressenti un petit peu. Donc voilà, ensuite j'ai choisi des études où j'avais envie d'apprendre des choses nouvelles. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'histoire de l'art avec cette idée que on pouvait aussi visiter des tas de choses en France, à l'étranger. Je suis même partie une année en Italie pour étudier là-bas. J'ai fait tout un tas de photographies dans le cadre d'un mémoire de décors intérieurs.
Parlons de votre métier maintenant. En quoi consiste votre métier ?
Alors mon métier au quotidien, c'est d'organiser le travail sur place, l'accueil du public. Donc à la fois je gère l'équipe, mais je gère aussi la meilleure manière possible d'accueillir notre public. Donc ça passe par l'organisation du parcours de visite, tout simplement, mais aussi par l'organisation de différents types d'activités qui peuvent correspondre aux attentes de nos visiteurs. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus visible. Et puis, il y a une partie plus invisible qui concerne la gestion des collections du musée, puisque le musée Balzac comporte 2500 pièces qui sont inventoriées. C'est un musée de France. On se doit de connaître pièce à pièce chacune et puis surtout de les conserver dans les meilleures conditions. Il y a tout un travail de veille à réaliser pour engager éventuellement des restaurations si cela est nécessaire. Et puis aussi, on se doit d'enrichir les collections au quotidien. Donc on doit aussi voir quelles sont les collections qui pourraient gagner celles du musée Balzac, les nouvelles pièces, pas plus tard qu'avant-hier. Il y a des bois gravés originaux qui étaient en vente, qui sont des bois gravés de Charles Huart, un illustrateur de la Comédie humaine, l'œuvre de Balzac. Et on a décidé donc de faire l'acquisition de ces bois gravés qui vont pouvoir être présentés dans le musée en lien avec les collections de la salle de l'imprimerie au rez-de-chaussée du musée.
Qu'est-ce que ce métier vous apporte ?
Au quotidien, c'est beaucoup de satisfaction. De la satisfaction qui passe par déjà le fait de voir les personnes qui viennent visiter le musée heureuses de cette visite. On a beaucoup de visiteurs qui viennent au musée Balzac en ayant un peu d'appréhension, il faut bien le dire, par rapport à Honoré de Balzac. C'est un auteur qui fait un peu peur, parce qu'il a des textes parfois un peu ardus, avec des descriptions très longues, jugées ennuyeuses souvent quand on est jeune, parce que on voit pas très bien où il veut en venir quand arrive l'action. Et puis finalement, nos visiteurs, lorsqu'ils arrivent au musée, ils découvrent un aspect un peu humain de l'auteur. Il découvre son cadre de vie, il découvre la chambre où il a travaillé. On leur parle aussi de son quotidien à Sachet. On évoque des lettres extraites de la correspondance de Balzac, où il décrit justement la manière dont était rythmée sa vie. On peut percevoir plus particulièrement son caractère aussi. Et puis il y a ce parc aux alentours du château de Sachet où il aimait particulièrement se promener. Il disait qu'il était à Sachet comme un moine dans un monastère, mais qu'il éprouvait aussi un réel bien-être physique là-bas. Donc les visiteurs finalement ont le sentiment d'expérimenter la vie de Balzac lui-même, et ça les rapproche certainement de cet auteur. Ce qui fait que quand ils repartent du musée, ils ont souvent envie de se replonger dans l'une des œuvres de Balzac.
Nous allons vous poser quelques questions sur le monument historique dont vous êtes responsable. À qui appartient ce château ?
Alors, le château, aujourd'hui, appartient au département d'Indre-et-Loire. Et c'est d'ailleurs le département d'Indre-et-Loire qui est mon employeur. Ça n'a pas toujours été le cas, puisque le musée a été créé par un particulier qui en était le propriétaire, Paul Métadier, et qui a décidé donc de créer un musée au sein de ce monument historique, le château de Sachet. Mais dès 1958, donc le musée a été créé en 1951, dès 1958, Paul Métadier a décidé de donner le musée au département pour des raisons essentiellement financières, parce que faire fonctionner un musée dans un monument historique, c'est très coûteux, ça suppose des aménagements, et Paul Métadier voulait vraiment que ce musée soit pérenne, c'est-à-dire qu'il dure dans le temps, et c'était l'une des raisons pour lesquelles il a vraiment donné ce musée au département, qui en est toujours le propriétaire et le gestionnaire aujourd'hui.
À qui a créé ce musée et quand ?
Et ben voilà, donc c'est Paul Métadier qui l'a créé en 1951, qui était un passionné de l'œuvre de Balzac. Alors pas tellement à l'origine, mais voilà, il en a pris connaissance à l'âge de 20 ans de l'œuvre de Balzac. C'est son père qui avait acheté ce château. Et juste après la Seconde Guerre mondiale, il a décidé, en lien avec des Balzaciens de Touraine, des Balzaciens tourangeaux, eh bien de créer un musée consacré à Honoré de Balzac pour faire connaître la vie et l'œuvre de Balzac, en particulier en lien avec la Touraine.
Combien de visiteurs y a-t-il par an ?
Alors c'était très variable. Alors on va pas parler des deux dernières années qui ont été marquées par le Covid, évidemment, parce que ce sont des années où on a dû fermer en grande partie. Mais grosso modo, on est sur 20 000 visiteurs chaque année, ce qui est plutôt une bonne fréquentation pour une maison d'écrivains, qui est une catégorie bien particulière dans les musées.
Est-ce que ça coûte cher d'entretenir le jardin et le château ?
Oui, ça coûte cher. Oui, bien sûr, ça coûte cher. Il faut compter, on est sur du 500 000 euros par an en termes de fonctionnement pour l'ouvrir au public. Et là, je comprends aussi tous les frais de salaire. Et je ne comprends pas tous les travaux annexes qui peuvent être décidés du jour au lendemain parce qu'une poutre maîtresse a décidé, par exemple, bien de ne plus tenir, il va falloir la remplacer. Ça nous est arrivé, ça, il y a quelques années, dans une pièce principale du château. Et ce sont des travaux qui ont coûté 100 000 euros.
Quel est l'endroit que vous préférez dans le château ou dans le jardin ?
Alors, dans le château ou dans le jardin, c'est pas la même chose déjà. Dans le château, je pense que la pièce que je préfère, c'est quand même la chambre de Balzac. C'est la pièce où il y a le plus d'émotions. C'est une pièce très intime, toute petite, qui n'a rien à voir avec les pièces de réception un peu majestueuses comme le grand salon ou la salle à manger. Dans la chambre de Balzac, on a vraiment... cette idée de se retrouver à la place de Balzac, qui était qui passait de nombreuses heures attablé à son bureau, qui dormait aussi dans ce petit lit, et qui avait cette vue un peu magique sur un vallon que Balzac a lui-même qualifié de vallon tranquille et solitaire, bordé par des chênes 2-3 fois centenaires. Et c'est vrai que c'est une vue un peu poétique que l'on a toujours aujourd'hui et qui a pu être préservée. Donc forcément, c'est un lieu auquel je suis très attachée. Et sinon, à l'extérieur, dans le jardin, je pense que l'endroit que je préfère, c'est quand même sous les grands arbres, entre le château et la grange, où on installe des transats. Là, à partir de la belle saison, vous ne les avez pas vus quand vous êtes venus, mais on a des transats, on a des ruches bibliothèques où on peut piocher un livre et puis lire tranquillement, allongé. Et puis c'est tellement calme à cet endroit-là finalement, donc voilà, c'est un endroit particulièrement reposant.
Et pour finir, une dernière question sur Balzac. Nous avons lu et étudié cette année Le Colonel Chabert, et vous, quel est le premier livre de Balzac que vous avez lu, et quels souvenirs en avez-vous gardé ?
Alors le premier livre de Balzac que j'ai lu, c'était pas au lycée, parce qu'à l'époque au lycée on l'enseignait pas, je sais pas pourquoi, Balzac n'est pas passé par là, mais bon. Et en fait c'est Le Père Goriot, c'est ensuite quand j'étais à l'université. Le Père Goriot c'est un roman où il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup d'actions, et qui est très différent d'un autre roman qui est Le Lys dans la vallée, que j'apprécie particulièrement, mais que je déconseille fortement à la lecture quand on est un peu jeune. Parce qu'il faut avoir un peu vécu, et c'est vrai que Le Lys dans la vallée, je l'ai découvert quand je suis arrivée au musée Balzac, je ne l'avais pas lu avant, et j'avais la trentaine passée, et finalement c'était bien, parce qu'il faut avoir vécu un petit peu, il faut avoir eu quelques expériences amoureuses, finalement pour comprendre toutes les émotions que Balzac suggère à travers ces deux personnages, Henriette de Morsauf et Félix de Vandenesse. Donc voilà, c'est quand même Le Lys dans la vallée, finalement, mon roman préféré.
Eh bien, merci Madame Lamy d'être venue répondre à nos questions au collège André Duchesne.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.